Délivrez-vous, une émission de Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps. Bonjour à tous. Jésus, maître de la communication. Vaste programme, et oui. Et pourtant, c'est un sujet tout à fait intéressant et qui mérite que l'on s'y arrête. Pour la dernière émission de la saison, eh bien, je vous propose une réflexion, une analyse avec un auteur, vous allez voir, qui a beaucoup d'idées sur la question et surtout une analyse pointue et qui mérite un petit débat au sein de Délivrez-vous. Bonjour Thierry Lenoir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour les radios protestantes, Jésus, maître de la communication aux éditions Cabedita. Alors, tout d'abord, on va savoir qui est Thierry Lenoir. Parlez-nous un petit peu de vous.
Alors, je suis pasteur, j'ai travaillé dans le dialogue interreligieux, où à Lausanne, on a créé avec l'Église réformée, l'Église catholique orthodoxe et d'autres communautés, une association pour le dialogue entre les religions, appelée la Maison de l'Arvilliers. Et puis, également, depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis aumônier en milieu hospitalier.
D'accord, donc plein de choses tournées vers les autres, bien évidemment. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, au préalable, c'est comment vous est venue cette idée de nous faire un livre sur Jésus, maître de la communication. Ça pourrait enfroisser certains, dire « Oh là là, mais on le met dans le 21e siècle ». Mais moi, j'ai toujours trouvé que Jésus, c'était un homme terriblement moderne.
De relations. C'est clair que dans le titre du livre, on a mis le mot communication, sachant quand même qu'aujourd'hui, ce mot est un petit peu piégé.
Bien sûr.
Dans le sens qu'un bon communicateur est quelqu'un de capable de tout vendre, y compris n'importe quoi. Donc, c'est bien sûr de Jésus.
Bien
c'est
sûr.
Communication dans le sens vraiment de la relation. Hein. C'est pourquoi le sous-titre de ce petit ouvrage, c'est comment tisser le fil de la relation.
Absolument, oui.
Alors, il se fait que j'ai suivi souvent des stages de formation en relation, en communication. Et c'est sûr que le meilleur apprentissage, c'est quand cette démarche de communication est incarnée par un être, par l'exemple. Et
oui.
C'est vrai qu'en lisant les évangiles, on se rend compte que tout ce qu'on apprend aujourd'hui en matière de communication était totalement intégré par la personne du Christ.
Oui, c'est vrai. Alors, en lisant votre livre, beaucoup de questions viennent à l'esprit, on se pose moult questions. Et moi, je me suis dit, mais terriblement moderne, finalement, tout ce modernisme, on va dire, par le côté matérialisme, aurait-il été à l'aise, après on va parler de l'esprit, hein, de la façon intellectuelle dont il abordait les choses, mais techniquement parlant, matériellement parlant, j'ai l'impression que c'était un homme qui se serait adapté à tout et à tous.
Oui, dans le sens qu'il est l'homme par excellence, hein, je pense que quand Pilate l'a défini et l'a montré au peuple en disant « voici l'homme », c'est clair que quand on aborde l'angle de la psychologie, Jésus est le maître des psychologues, Jésus est le maître des thérapeutes, il est le maître de la relation d'aide, le maître de la communication, il est chaque fois ce modèle en humanité.
Oui, tout à fait. Oui. Alors justement, dans votre livre, dans cette communication, hein, il y a plusieurs, donc, phases, mais c'est surtout cette façon dont il a d'emmener les gens, de leur parler, de se faire écouter. C'est ça aussi, en premier lieu, la communication. C'est attirer l'écoute, attirer l'attention.
Oui, oui. Alors, oui, c'était... Mais je ne veux pas mettre trop en évidence l'aspect technique.
Bien sûr.
Il avait les manières d'être, l'approche, le savoir-être et un savoir-faire, bien entendu.
Oui.
Mais tout était vraiment dans une approche centrée sur la personne.
Bien sûr.
Il maîtrisait une écoute active. Il maîtrisait la relation par le non-verbal. C'était quelqu'un qui avait même intégré pleinement ce qu'on appelle aujourd'hui les principes d'analyse transactionnelle,
oui.
La communication non-violente. Il était un maître dans tous ces domaines, bien avant que les concepts aient été élaborés.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui que, hormis bien sûr le côté religieux, sentimental, dirons-nous aussi, vis-à-vis bien sûr de la foi et de Jésus, que nos communicants d'aujourd'hui auraient ou auront beaucoup à apprendre de lui.
Bien sûr, bien sûr. Il reste une parole incarnée. incarné, hein, d'ailleurs, il est présenté dans les
bien sûr
comme, comme la parole qui est venue et que rien n'a pu venir à l'existence sans cette parole. C'est une manière de dire que, qu'au cœur de l'existence humaine et de la mise en relation des choses, il y a toujours cette parole communicante qui est là et dans ce sens-là, bien sûr.
Oui.
Il a tout à nous apprendre dans sa manière d'être, dans sa manière de communiquer les choses, dans sa manière d'utiliser le non-verbal aussi, dans son geste, dans son regard.
Oui.
C'est clair que Jésus n'était pas un discoureur, c'était un être de relation.
Oui.
Quand on regarde la manière, on va peut-être en parler, la manière dont les premiers disciples ont été appelés
justement.
Et ont suivi Jésus, rien n'est au travers du discours persuasif, mais tout est dans l'attitude, dans le geste, dans le relationnel.
Alors justement, ce rapport aux disciples qui l'ont suivi par rapport à la gestuelle, au relationnel, effectivement, ça n'était pas forcément un grand bavard, un grand discours, vous disiez, mais il était tout dans l'empathie, dans le mouvement du corps, dirais-je. Toute sa communication, c'était le mouvement du corps et le regard, et aussi cette approche affective aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est dans ce sens-là, oui, vous avez raison d'insister sur ce mouvement, parce qu'une relation, c'est réellement, il y a un déplacement, il y a un accompagnement, il y a une dynamique. C'est pas pour rien que Jésus est constamment en marche. Et quand on lit les évangiles, constamment, il quitte un endroit, il va vers un autre, il rencontre, il les emmène, on le suit, il marche avec. Il y a toujours cette notion de dynamique, de mouvement. C'est pas pour rien que ce merveilleux poète Christian Bobin a écrit un petit ouvrage sur Jésus qu'il a appelé « L'homme qui marche ».
L'homme qui marche, oui, c'est vrai. Alors, on pourrait dire il marche physiquement, mais il marche aussi intellectuellement, parce que moi, je me disais, mais quelle force il faut aussi pour cette force de persuasion, dans la douceur, dans l'amour de l'autre, dans l'empathie, dans l'écoute. C'est ça qui est incroyable aussi. Il ne s'est jamais arrêté jusqu'au bout.
Non. Et non seulement il était tout le temps en marche, mais il nous mettait aussi en marche.
Oui.
Donc c'est une marche qui allait au devant de l'autre, pour la rencontre de l'autre, et en même temps qu'il nous mettait en marche, qui nous met en marche.
Mais 2000 ans après, il nous met toujours en marche. Enfin, il met toujours en marche.
Bien sûr qu'il nous met toujours en marche. Maintenant, quand on parle de sa douceur, il a incarné toute cette compassion, toute cette bienveillance, mais en même temps, c'était un être d'autorité.
Oui.
C'est-à-dire qu'il était capable aussi, ce n'était pas l'être doucereux et
c'était
parfois poivré dans ses dires, dans ses expressions, dans sa manière d'être. C'était un être d'autorité dans le bon sens du terme. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques d'un être de relation et de communication.
Oui.
Autorité, littéralement, c'est quelqu'un qui est auteur de sa vie, qui rend l'autre auteur de la sienne.
Oui.
Donc il nous poussait à un positionnement.
Oui. Alors, on s'aperçoit aussi que finalement, dans certains cas, de par les évangiles ou de par ce que vous nous dites aussi, il n'avait pas besoin souvent ou parfois de faire grand-chose. Seule sa présence, sa façon d'être suffisait à emmener et à fédérer, dirais-je.
Bien sûr, une attitude, un geste, un regard parle tellement plus que tout un discours où on cherche à persuader. Jésus ne cherchait pas à persuader, il était. Donc il suffisait d'une présence, notamment quand il y avait des conflits, par exemple, sa manière de gérer
les conflits.
Tout se faisait au travers du geste, essentiellement, ou de la métaphore, de parabole, toujours dans un contexte de conflit. C'est une manière de faire sortir du conflit et de trouver un point d'accord. Mais tout cela se faisait avec peu de discours, c'était des images, c'était des gestes signifiants. C'était un regard à toucher, la place de toucher chez Jésus est extrêmement présente. Tout cela parlait beaucoup plus. C'est pas pour rien qu'on dit ton regard trahit tes paroles, parce que le regard est plus fort que n'importe quelle parole.
On s'aperçoit aussi que tout cela c'est arrivé très tôt dans sa vie. Bon, il est mort bien évidemment très jeune, on le sait, mais on a l'impression que ça a toujours fait partie de lui depuis sa plus tendre enfance. C'est quelque chose qui était inné. C'est incroyable.
Oui, c'est vrai que dans son enfance, on connaît peu de choses de son enfance.
Oui,
oui. Jusqu'à ses 30 ans, mais l'Évangile signale quand même
quelques petits détails.
Grands événements dans son enfance. D'abord, la fois où il a disparu pendant quelques jours.
Oui.
Ses parents étaient paniqués parce que, justement, il était tellement assoiffé de relations de sa plus tendre enfance qu'il avait besoin de rencontrer, sans doute. Et finalement, ils l'ont trouvé dans le temple, partageant avec les prêtres. Donc, déjà, c'était sans doute une manière d'être déjà dès son enfance, de vouloir tisser des fils de relations. Ça, c'est sans doute déjà très précis dans les évangiles. Oui. Maintenant, jusqu'à 30 ans, il a travaillé comme assistant de son père, charpentier. Or, on sait très bien aujourd'hui qu'un charpentier n'est pas simplement un manuel, enfin simplement c'est pas dévalorisant, mais plus qu'un manuel, c'était un homme de sagesse. Le charpentier, on allait autrefois voir le charpentier parce qu'il était l'homme de bon conseil. Donc Jésus a grandi dans ce contexte-là auprès de Joseph, dans l'apprentissage de ce métier, qui était un métier avant tout de relations, de sagesse, de savoir-être.
On y croit pas, bien sûr, libre à chacun des auditeurs, bien sûr, face à sa foi, ses convictions ou non, mais outre le fait d'être le fils de Dieu, est-ce que dans cet homme de communication, mais d'amour finalement, il communique par l'amour, par le geste affectif, tout homme, quand je dis tout homme, c'est avec un grand H bien évidemment, doit retirer ou peut retirer quelque chose par rapport à sa vie et sa façon de se comporter avec l'autre, justement.
Oui, j'ai écrit ce livre tout en étant un homme de foi.
Bien sûr.
Je l'ai écrit, non, pas, c'est pas un ouvrage de piété qui s'adresse à des croyants. Je m'adresse à tout être humain.
Voilà.
On a soif de
relation. C'est pour ça que je le précise. Voilà.
Avoir un modèle incarné.
Tout à fait.
Dans ce sens-là, alors qu'on soit croyant ou pas, Jésus reste un modèle d'une immense pertinence. J'ai pu discuter avec plusieurs spécialistes de la communication et quand on aborde ces thèmes de l'Évangile, tous sont fascinés par l'homme, que l'on soit croyant ou pas.
Ce qui est important. Avant tout, c'est l'homme, quel que soit ensuite ce en quoi on croit ou on ne croit pas. C'est l'homme qui est important.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Jésus a toujours accompagné les êtres indépendamment de leur croyance ou de leur non-croyance. Jésus n'est jamais rentré dans des polémiques théologiques, dans des discours religieux. Jésus a accompagné l'être. Et tout être, même en souffrance, Jésus était un accompagnant, indépendamment, bien sûr, du milieu culturel, de ses croyances. Jésus était toujours dans l'attente de la relation avec quel qu'il soit.
Alors, pensez-vous aussi que, justement, au travers de ce qu'il était, de ce qu'il véhiculait, qui était positif, puisque les gens le suivaient, l'écoutaient, il a forcément dérangé?
Bien entendu qu'il a dérangé, dans la mesure où lui-même était en marche et nous mettait en marche.
Bien sûr.
Bien sûr que c'est pas toujours très confortable. De toute façon, je rappelle que la relation, c'est entrer en dialogue.
Oui.
Dialogue, littéralement, c'est une parole qui traverse. Dialogos.
Bien sûr.
Donc une parole qui traverse.
Oui.
Ce sont deux êtres avec leur histoire, avec leur approche, leur sensibilité qui se rencontrent. Et toute aventure de communication reste une aventure périlleuse, merveilleuse, mais qui a son lot de douleurs aussi, parce que c'est sûr qu'elle nous déstabilise, on est confronté à d'autres manières de penser. Accueillir l'autre, c'est toujours une situation qui peut être déstabilisante.
Déjà, Alors j'ai le sentiment aussi que vous nous expliquez que ceux qui ne croyaient pas forcément en la parole, qui n'étaient pas habitués à ce qu'on leur parle, à ce qu'on les touche, à ce qu'on les enveloppe, Jésus a pu transformer ces hommes et ces femmes justement par sa façon d'être et certains ne soupçonnaient pas ce que l'on pouvait faire par le geste, la parole, par la communication, par la découverte de tout cela.
Et ce qui me touche, c'est que Jésus avait une manière d'entrer en relation et dans une relation d'aide aussi, là c'est le mot dont
on
parle maintenant, où il le faisait gratuitement. C'est-à-dire que ce n'était pas une stratégie. C'est pour ça que j'ai nuancé tout à l'heure le mot communication.
Oui, bien sûr.
Pas une stratégie dans le fin d'aboutir à recruter des disciples et les séduire. Pas du tout. Jésus était capable d'accompagner, de rencontrer, d'être dans une relation d'aide avec des êtres et à s'éclipser après pour les laisser confronter à leurs responsabilités. J'ai même envie de dire, il n'y avait pas une stratégie d'évangélisation.
Mm-hmm.
Ce n'était pas de la stratégie.
Oui.
C'était un puissant besoin d'entrer en relation et d'apporter un courant de vie et de vie en abondance. Et après, ben, chaque être faisait ce qu'il décidait de faire de ce que Jésus partageait. Mmh.
Pensez-vous qu'à travers le temps, bien sûr, les évangiles sont là pour témoigner aussi, des années plus tard, c'est une forme, dirais-je, entre guillemets ou entre parenthèses, de livret de communication de la parole de Jésus, de sa vie, de la façon dont il a marché ou nous a fait marcher. Il a traversé le temps justement grâce à cela, justement, le fait qu'il a porté et qu'il a continué au travers des écrits à porter tout cela aussi.
Oui, oui. Je pense, et c'est vraiment le cœur des évangiles, et surtout l'évangile de Jean.
L'évangile de Jean.
Vraiment, pour moi, bon, c'est l'évangile qui me touche le plus.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est l'évangile de la relation. Mais tous les évangiles mettent en évidence cet aspect relationnel. C'est intéressant de voir que l'évangile de Jean, qui commence par ce merveilleux prologue, qui dit qu'au commencement était la parole, que tout est créé par la parole, c'est une manière de dire que la parole est créatrice de vie, et la non-parole, c'est-à-dire le non-dit, ben elle tue. Et Jésus a incarné justement cette volonté de partager la vie. Et dès le début de l'évangile, l'évangile s'ouvre par une rencontre. Les premiers disciples qui suivent Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme qui est la première parole de Jésus, je dirais, dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, c'est de dire à ces gens-là, que cherchez-vous ? Parce qu'ils se mettent à sa suite, à le suivre, parce qu'ils sont fascinés par l'homme et ils veulent voir où il habite. Que cherchez-vous ? Donc, ça montre qu'à la base de tout être humain, il y a toujours une quête. Que l'on soit croyant ou non, on cherche quelque chose. Que ce soit le bonheur, que ce soit un confort, que ce soit une sécurité, un sens à l'existence. Et quand on va à la fin de l'évangile de Jean, et c'est très significatif, juste après la résurrection, Marie va au tombeau.
Oui.
Elle trouve le tombeau vide et qui voit un homme dans le jardin, une cimetière, et qu'elle le confond avec un jardinier. Jésus lui dit, première parole, qui cherches-tu ? Et je trouve très intéressant que l'évangile est encadré par ces deux questions. Que cherchez-vous ? On passe du vous collectif au tu singulier. Oui. On passe du quoi à qui ? Qui cherches-tu ? Parce que finalement, tout le sens de notre existence...
C'est que cherchons-nous ?
Non seulement qu'est-ce que l'on cherche, mais qui on cherche.
Qui on cherche.
Je pense qu'on passe de l'objet de notre quête à la relation avec la personne. On est tous dans un besoin immense d'entrer en relation. Il n'y a que ça qui tient. Finalement.
Oui. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si on fait, un parallèle entre la parole et sa façon d'être, et aujourd'hui, vous dites que vous insistez beaucoup sur la parole qui est très importante, sur le dit et le non-dit. Aujourd'hui, la parole, j'ai l'impression qu'on l'a tue un peu, on l'a, un peu abîmée. On s'écoute plus, on s'entend et on s'écoute pas, ou on s'écoute et on ne s'entend pas. Il souffrirait peut-être aujourd'hui de cela, non ?
Mais oui. Alors, on pêche d'une part par excès de bruit et de paroles qui font du bruit.
Et qui polluent l'écoute.
Mais non, on n'est plus dans l'écoute. Et le premier organe de la parole, c'est d'abord l'ouïe.
Bien sûr.
Et ça, Jésus l'a incarné pleinement, c'est être à l'écoute d'abord, une écoute active. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus perdu. On est beaucoup plus focalisé sur son discours. Quand on fait un dialogue, on n'écoute même pas l'autre. On est déjà, quand l'autre pose la question, on est déjà en train
de préparer
notre réponse. Jésus était quelqu'un qui parlait peu, qui était énormément à l'écoute et qui préférait signifier son message par une allégorie, par un geste. L'exemple de la femme adultère qui est chez Jésus. Jésus ne parle quasiment pas, c'est deux phrases. Tout le reste est dans le geste, dans la symbolique.
Oui. Et jamais dans le jugement.
Alors, il l'a dit à plusieurs reprises, je ne suis personne.
Et oui. Oui.
On a tendance naturellement à juger.
À juger.
C'est d'ailleurs la base de la communication non violente, ce qu'on appelle la CNV, qui a été mise au point par Marshall Rosenberg. Mais c'est vrai qu'au cœur de cette communication non violente, il y a cette notion de refus de juger et d'entrer dans une notion d'empathie. Jésus l'a incarné et il l'a dit à plusieurs reprises, je ne juge personne.
Eh bien, nous allons faire une petite pause et j'espère que vous jugerez que cette pause est tout à fait acceptable et agréable. À tout de suite. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous avec Thierry Lenoir pour son livre Jésus, maître de la communication aux éditions Cabedita. Alors, on parlait de la parole de Jésus dans sa com, dirais-je, pour vulgariser un peu le propos. On disait aussi qu'il a emporté des foules entières, et aujourd'hui, et tout au long finalement de ces 2000 ans d'histoire, il a continué à emporter le monde et le peuple. Mais on pourrait aussi se poser la question au travers de votre livre, pourquoi finalement est-il devenu le chef de l'Église? Parce qu'il a aussi créé, inventé quelque chose?
Alors, il était un révélateur, un provocateur d'humanité,
oui.
Entre autres.
Oui.
Sa manière d'avoir un message qui ne s'adresse plus, comme c'était le cas de tous les grands maîtres spirituels avant lui, comme tous les grands prophètes, qui s'adressait beaucoup plus à un peuple,
oui.
À une foule. Jésus a eu un discours qui était profondément innovateur, où il révélait l'individu. Il faisait sortir même l'individu de la masse, comme Jung parle d'individuation ou de différenciation. Jésus avait cette faculté d'avoir un message, et il avait le savoir-être pour détacher du collectif. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Il touchait vraiment la personne. Mmh. Au lieu de s'adresser d'abord à une foule. Plus d'une fois, on venait en foule vers lui, et Jésus faisait exploser la notion de foule pour laisser partir chaque être un à un. Et ça, c'est quelque chose de profondément nouveau dans la relation. Il parlait à l'individu.
C'était un message personnel à chaque fois.
Oui, c'était un appel à l'individu.
Un appel à l'individu.
C'est pas pour rien, oui. Qu'à un moment donné, c'est ainsi que j'interprète cette parole, je ne suis pas le seul, quand Jésus dira à un moment donné, entrer dans la vie par le chemin étroit, par la porte étroite. Alors que Jésus a toujours été pour montrer une universalité, une ouverture, un Dieu inclusif. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Le royaume des cieux est comme un filet jeté sur la mer qui rassemble et qui recueille des poissons de toutes les espèces. Donc l'idée est toujours d'ouverture. Et il dit, mais entrer dans la vie par le chemin étroit. Et si le chemin est étroit, c'est pas pour limiter l'accès.
Mm-hmm.
C'est justement pour permettre à l'individu d'entrer dans la vie comme individu.
Mm-hmm.
C'est pas pour rien que Jésus a dit cette parole qui en a peut-être blessé quelques-uns, quand il disait « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais le tranchant, l'épée qui sépare même le père, le fils, la mère, la belle-fille, la belle-mère, non pas pour provoquer la guerre des familles, mais pour permettre à l'individu d'exister, de trouver son territoire et d'exister comme être. »
En tant qu'être.
Et non pas comme fils de.
En tant qu'être et à part entière aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors vous dites, il pouvait avoir aussi, on le disait, des paroles tranchantes, il pouvait être aussi incisif, jamais injuste, toujours juste, droit aussi, mais il savait très bien faire la différence dans sa façon d'être, dans sa façon de communiquer entre le bien et le mal. Et ça, c'est quelque chose qui était manifestement, comment dirais-je, c'était naturel chez lui. Tout de suite, il savait, tout de suite.
Alors, il incarnait la notion de vérité. Hein.
Oui.
Il était chemin, vérité et vie. Et la vérité, eh bien, elle doit pouvoir se proclamer. Jésus était capable de s'indigner, surtout face à l'hypocrisie.
Oui.
C'était son indignation et sa virulence, parfois, même parfois très, très forte, puisqu'il savait être dur aussi avec les êtres. On l'a vu dans le temple, il a rendu les tables, il a chassé les vendeurs du temple. C'était face à l'injustice, face à l'hypocrisie qu'il était terrible, qu'il savait mettre le poing sur la table.
Oui.
Mais c'était jamais pour juger un individu, pour juger l'attitude de...
C'était pour protéger ?
Voilà, pour protéger sans doute, oui, notamment le peuple. Il protégeait, il était du côté du peuple, c'était un homme parmi les hommes. Et quand il voyait les abus au nom de la religion qui se disaient, là, Jésus n'acceptait pas. Il savait dénoncer, bien sûr.
Pour faire votre livre, bien évidemment, de par votre expérience, votre métier de pasteur, vous avez continué à faire de recherches, vous avez découvert d'autres choses de sa part, des choses qui vous ont étonné ou que vous saviez et que vous avez mis au jour comme ça au travers de votre livre.
L'évangile, la parole, comme on dit, est vivante, elle reste vivante
parce
qu'elle ouvre toujours plein de pistes de
plein de portes et plein de fenêtres.
Voilà, en fonction de ce que l'on est en train de vivre. Comme je vous ai dit, ça fait depuis quelques années maintenant, je suis aumônier hospitalier. C'est vrai que d'être confronté à des crises de vie, qu'elles soient une crise physique, symbolique, émotionnelle, visuelle, ça nous invite à recreuser l'Évangile et la lire avec un autre regard. Et constamment, il m'arrive, alors que je suis avec des patients, en train d'essayer avec eux de cheminer, de répondre à des questions, d'ouvrir de nouvelles questions en fonction de leur crise de vie, et constamment, j'ai tout à coup des scènes de l'Évangile qui me viennent et qui me parlent tout autrement. Donc, ce n'est pas une recherche intellectuelle, c'est plutôt l'expérience du vivant qui, finalement, chaque fois, nous permet de découvrir de nouvelles facettes du grand vivant.
Oui. Sa façon, justement, on le disait, d'agir avec les autres, je suppose que ça vous guide, vous aussi, dans votre quotidien auprès des autres.
Oui, un exemple que je vous donne, qui pour moi est un modèle, c'était, comme je disais tout à l'heure, cette manière de provoquer, d'être révélateur d'humanité.
Oui.
Jésus avait une faculté étonnante de croire en la bonté humaine. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement l'habitude de dire l'homme est profondément mauvais.
Oui.
C'était pas du tout le regard de Jésus. Jésus avait un regard sur l'être humain qui était bon. Mais cette bonté, souvent, était occultée. Donc, la source intérieure était obstruée. Et tout son travail humain, dans la relation humaine, c'était justement de permettre à cette source intérieure de ressortir en source d'eau vive. C'était l'expression qu'il utilisait. Je vous donne un exemple. Bartimée, par exemple. Un aveugle qui était rabroué par toute la foule parce qu'il appelait Jésus, il hurlait sa souffrance et il interpellait Jésus à sa compassion. Et toute la foule qui était là était hostile parce qu'un homme qui crie sa souffrance, ça dérange. Donc il le faisait taire. Et voilà que Jésus s'arrête et dit cette parole surprenante, « Dites-lui qu'il vienne jusqu'à moi ». C'est-à-dire que non seulement il invite l'homme à faire un petit bout de chemin jusqu'à lui pour ne pas tout faire à sa place, pour le permettre d'être partenaire de cette relation et de cette guérison.
Oui.
Mais en plus de ça, il fait de tous ces êtres hostiles des partenaires. Il croit qu'ils sont capables, non pas seulement de dire des paroles qui rabrouent la personne, mais d'être partenaire dans une démarche de bienveillance. Et le texte d'Évangile conclut en disant que ces hommes vont vers Bartimée et lui disent « Courage, le maître t'appelle ». Donc, croyant à la bienveillance possible de ces gens-là, il a rendu cette bienveillance. Ces hommes-là qui rabrouaient, bah, du coup, ils ont une parole de compassion. Courage, le maître t'appelle. Et ça, cette vision, elle m'habite beaucoup. Je me dis toujours, si quelqu'un est dur, si quelqu'un est violent, si quelqu'un est apparemment mauvais, ça veut dire qu'il est noyé. Sa bonté est noyée par ses peurs. Donc, que faire pour apaiser les peurs et réveiller cette source qui ne demande qu'à jaillir? C'est l'attitude de Jésus.
Bien, en tout cas, ce sera une très belle façon de conclure cette très belle émission. Jésus, maître de la communication, de Thierry Lenoir aux éditions Cabedita. Ça fait du bien, je trouve, pour une dernière émission de cette saison de parler avec vous. Ça permet d'entamer un été, on espère, plein de sérénité pour chacun de nos auditeurs. En tout cas, c'était un vrai plaisir. J'enjoins tout le monde, à chacun, de lire votre livre. On y apprend plein de choses. Et puis, une belle réflexion. Franchement, une très belle réflexion. Je vous remercie infiniment, Thierry Lenoir. Aurez-vous l'occasion d'écrire encore sur d'autres sujets?
Oui, oui, oui. Je continue chez Cabedita, justement, cette collection dirigée par Daniel Margrave.
Oui.
Théologien. Donc, j'ai écrit l'année dernière un autre ouvrage sur la relation, justement, d'aide, qui est une rencontre. J'en ai un prochain qui sortira sur le cantique des cantiques et très prochainement un autre encore sur les paraboles du royaume.
D'accord. Eh bien, écoutez, sans doute que nous aurons le plaisir de vous retrouver une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Thierry Lenoir. Pour cet été, je vous conseille également trois ouvrages très différents, mais qui vous permettront sur la plage sans doute de vous détendre, ou ailleurs, dans le train ou à la montagne. Le sourire du diable de Antonia Jacobson aux éditions IXO. La lettre de Queenie également aux éditions IXO. Alors, de Rachel Joyce. Et également un livre très intéressant, un roman historique, dirais-je, sur Louis XIV, La Mauresse, de Jean-Michel Rioux, aux éditions de Nest. Je vous souhaite à tous un très bel été, reposez-vous bien, et je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures littéraires. Merci de votre fidélité, à très bientôt, au revoir.